Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de notre cycle de rendez-vous de la transformation et de la digitalisation de la fonction fiscale. Ce cycle a pour objet de vous faire découvrir et explorer les possibilités de transformation, évolution en vous proposant des cas d'usage des nouvelles technologies avec notre panel de compétences mixant fiscalité, technologie, finance et transformation. La première session de fin janvier vous avait permis de découvrir des cas d'usage autour de la data visualisation. La seconde de mi-mars, un cas d'usage de data analytics appliqué au transfer pricing. La troisième permettait d'avoir un résultat complet de notre enquête sur le thème du digital tax. À l'approche de l'été, on a eu envie de vous proposer une formule un peu différente et je voulais vous partager avec vous une photo que j'ai prise il y a une dizaine de jours dans les calanques entre Marseille et Cassis. Parce que ça nous semblait être un petit goût d'avant-goût de vacances. Merci d'être d'ailleurs présent aujourd'hui, alors même que le compte à rebours des sujets à finir avant les congés est bien lancé. Mais également une image qui correspond assez bien à ce que nous avons voulu partager avec vous depuis plusieurs mois. Un chemin de transformation qui peut prendre des formes assez différentes selon vos enjeux et vos besoins. Et enfin, ça témoigne aussi cette photo, cette volonté de partager avec vous aussi l'envers du décor qu'on va pouvoir voir aujourd'hui sur les outils fiscaux. Il faut que je sois honnête, si cette photo semble très zen et très apaisée, elle a quand même été prise lors d'un trail d'une trentaine de kilomètres sur lequel j'ai un petit peu fourni quelques efforts. Ce petit clin d'œil étant fait, je vais vous présenter le menu du jour. Nous avons choisi un thème sur l'automatisation avec des technologies et des cas d'usage assez variés comme vous allez pouvoir le constater. Nous allons avoir avec nous aujourd'hui Jean, associé Digital Tax Innovation.
Bonjour à tous.
Hélène Chastanier, Global Mobility Service, qui nous présentera un cas d'usage sur l'usage de la vidéo dans l'upskilling des collaborateurs. Mathilde Quéré, Tax Indirect, qui vous présentera. Bonjour. Donc, Hélène qui est arrivée en rouge en bas à droite. Mathilde Quéré, Tax Indirect, qui nous présentera un robot pour réconcilier les montants de TVA.
Bonjour.
Olivier Tourmaine. Et Florent Richard, bonjour, tous les deux transfer pricing. Ils montreront comment automatiser la matrice des flux de transfer pricing. Julie Lordereau, fiscaliste, qui nous présentera un cas d'usage autour des nouvelles règles de déductibilité des charges financières.
Bonjour à tous.
Et Cyril Jacquet, qui nous parlera de comment on va récupérer toutes les données dans l'organisation.
Bonjour à tous.
Et enfin, je me présente Céline Joubert, donc associée PwC, responsable de la plateforme Finance Transfo et coordonnant avec Jean l'ensemble de ce sujet Digital Tax. Quelques détails pratico-pratiques pour cette Webex. Vous avez un chat à votre disposition pour poser toutes vos questions. Nous avons prévu un moment pour y répondre en fin de session, mais n'hésitez pas à les poser tout au fil de l'eau. On y répondra si on peut prendre au fil au moment. Et si jamais nous n'avions pas le temps d'y répondre à la fin de cette séance, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement pour échanger avec nous. Par ailleurs, vous avez aussi un petit bouton pour passer en bas de l'écran. Ça permettra lors des démos d'être un petit peu plus confort dans la visualisation de ce qu'on peut faire. Voilà un petit peu les modalités pratico-pratiques. Donc aujourd'hui, on a choisi plutôt le thème d'automatiser et de faciliter, on va dire, des outils pour au quotidien. Pourquoi automatiser? Bien sûr, pour maîtriser la qualité du processus. Un processus automatisé est un processus qui a moins d'erreurs. On est complètement uniforme dans la manière de répondre. Ça permet de réduire le temps consacré par les collaborateurs à des choses à très faible valeur ajoutée. Comme répéter 50 fois quel est le dernier taux de TVA pour la France en taux courant, et permettre aux collaborateurs de vraiment se concentrer sur les travaux à valeur ajoutée ou les sujets complexes. L'automatisation peut aussi être un moyen pour réduire les coûts de la fonction. Quelles sont un peu les techniques pour automatiser? Elles peuvent être très variées, comme on va vous le présenter dans les prochaines minutes. Ça peut commencer par des fonctionnalités d'avancée d'Excel, hein, tout simplement. Ça peut être un petit chatbot qui permet de répondre à la place du service fiscal à certaines questions simples et basiques. Ça peut être des vidéos pour former nos collaborateurs, des robots pour automatiser certains travaux, des digital dashboards, donc plein d'outils qu'on va pouvoir vous présenter. Pour commencer, je vais présenter avec Jean notre chatbot fiscal. Un chatbot en français, et dans le texte, ça correspond à un agent conversationnel. Ça veut dire qu'il permet de répondre à une question que vous formulez. Jean, peut-être, est-ce que tu as un petit exemple ou à quoi ça pourrait servir un chatbot?
Alors, le chatbot, il est là pour, en général, libérer du temps. Comme tu l'as dit ou comme tu viens de le dire, répondre toujours aux mêmes questions, c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Ça retire des tâches essentielles et c'est difficile de s'y soustraire parce qu'on doit être au niveau de la direction fiscale responsive et pouvoir donner du feedback aux équipes métiers, aux équipes de comptables, à toute personne au sein de l'entreprise qui va avoir besoin à consommer de l'information fiscale. Avoir un outil qui va pouvoir orienter les demandes, ségréguer l'information, identifier les questions que les gens se posent au sein de l'organisation, eh bien, le faire sur un mode automatique avec un outil qui va pouvoir collectionner l'ensemble des questions posées, bah, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui peut donner du levier à la direction fiscale.
Okay. Donc, normalement, vous pouvez voir actuellement notre petit robot, notre petit chatbot. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez pas. Donc, le point sur le chatbot, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser une infrastructure qui existe assez fréquemment.
On ne le voit pas, on ne le voit pas.
Voilà, d'accord. Hop, et ben on va recommencer, c'est pas un problème. Donc, on est souvent dans un. Donc, un chatbot est souvent utilisé plus largement dans l'entreprise, que ce soit pour répondre à d'autres questions ou que ce soit
Ah, c'est bon.
pour la partie RH. Donc, nous, on a un chatbot au niveau de PwC, ce qui est utilisé pour plein de fonctions. Donc, il s'appelle Alex. Donc, bonjour Alex. Il m'accueille, donc il est utilisé pour des sujets plus pratico-pratiques, donc sur notre restaurant d'entreprise, par exemple. Donc, il m'accueille avec un petit Hello Céline. Bonjour Alex. Et nous avons une zone en bas pour poser des questions. Donc, admettons, imaginons 2 secondes que je suis un opérationnel comptable qui se pose la question sur quel est le taux de TVA à mettre sur une facture. Prenons un exemple un peu bizarre que je me suis aperçu en préparant cette Webex. Quel est le taux de TVA pour un com-repas à la cantine? Alors, je peux peut-être commencer par une question un peu basique. Quels sont les différents taux de TVA en France? Donc, il réfléchit et donc il me donne les différents taux qui peuvent exister. Donc, 20% en taux standard, 10% en taux intermédiaire, 5, 5 et 2, 1 pour les taux réduits. Avec en plus des spécificités sur la Guadeloupe et la Martinique. J'ai chaque fois dans ce chatbot une petite présentation. Soit je suis d'accord avec la réponse, soit la réponse ne me satisfait pas. Donc là, c'est par rapport à ma question, j'ai une bonne chose et il me dit je suis en face. Ces éléments-là permettent de tester le niveau de satisfaction des utilisateurs et permettre de voir s'il faut faire progresser le chatbot. Donc, c'est plutôt utile de pouvoir les renseigner. Si je demande à mes sujets, en fait, je ne sais pas trop quelles étaient les opérations soumises à un taux de 10%, le chatbot trouve que ma question n'est pas très bien formulée et pas sûr de bien comprendre. Donc là, on peut être soit mis en relation avec quelqu'un, soit il me propose une reformulation. Donc là, il me parle en meilleur français que la question que j'avais soumise, en me proposant vraiment les opérations soumises au taux de 10%. Et là, il permet de voir tous les éléments les taux qui sont soumis au taux de 10%. Et donc, on voit que la fourniture de repas dans les cantines d'entreprise sont bien à 10%. Et si je voulais être sûre et que je veux voir quelles sont les opérations soumises au taux de 5,5, on va voir la petite spécificité que la cantine dans les restaurants scolaires, c'est 5,5. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu les réactions d'un chatbot sur un premier cas relativement simple. Et ça permet, on va dire, de dégager les équipes fiscales de répondre à des questions assez simples et assez basiques. Jean, tu nous proposes un second cas?
Oui, alors un deuxième cas d'usage, là pour cette fois, je suis non pas un opérationnel, mais un comptable qui cherche à avoir les conditions d'équité des dépréciations sur titre. Donc je pose la question, les dépréciations sur titre sont-elles déductibles fiscalement? Et je pose la question. Donc c'est Céline qui écrit la question, hein, on s'est partagé les rôles jusqu'au bout.
J'aime bien faire du et papoter sur un clavier.
Voilà, et là on a une série de réponses. Il n'est pas sûr d'avoir compris. Et donc, on est sur quand même un élément où il identifie une dépréciation des titres déductibles fiscalement ou pas. Donc, on est bien dans cette zone-là. Donc, on clique sur la réponse. Et on a un élément de réponse. Mais on peut faire aussi un warning, c'est-à-dire que la direction fiscale ou les fiscalistes, lorsque la réponse n'est pas certaine ou qu'elle pose des problèmes ou des éléments qui doivent être sécurisés, le chatbot peut renvoyer aussi à des interlocuteurs physiques pour pouvoir s'assurer du contexte de tel ou tel sujet pour que, quand les sujets sont suffisamment sensibles, on puisse revenir à un échange qui ne soit pas que virtuel, mais qui se repose sur une discussion avec la direction fiscale, notamment pour sécuriser certains sujets.
Très bien. Un troisième petit cas très très rapide. Si les gens ne savent pas, par exemple, ce qu'est le CBCR, tout simplement, on peut avoir des explications texte très simples comme ça pour permettre de naviguer dans un chatbot et ça peut permettre de, voilà, de savoir différents niveaux et donc on peut avoir un certain nombre d'éléments. Jean, un dernier petit cas?
Oui, un dernier petit cas pour vous dire. Alors, on n'est pas dans de l'intelligence artificielle, hein, de manière sous-jacente. On anticipe les questions, on prépare les réponses. Et l'idée, c'est aussi de faire vivre le chatbot, hein, et on va vous l'illustrer. Donc, je cherche une mention, je suis un commercial, je cherche une mention à faire apparaître sur une facture dans le cadre d'une exportation. Et donc, je vais taper la question, mention spécifique, exportation, facture. Il me répond. Donc, on est sur les livraisons intra-communautaires. Donc là, dans ce cas-là, on me propose le 1001. Donc, on n'est pas exactement là où on doit être. Donc, on est à côté de la réponse. Donc, la machine ne sait pas répondre. Et donc, dans ce cas-là, ben, c'est un cas typique où cette question-là n'a pas été prévue au moment de la structuration des questionnaires par l'équipe qui va être chargée d'entretenir le chatbot. Et celui qui va maintenir le chatbot va pouvoir compléter les réponses à telle ou telle question. Et d'ailleurs, une fois que ça sera complété, le chatbot va recontacter les personnes qui lui ont posé des questions et auxquelles il n'a pas su répondre en lui disant, ben, tu m'as posé une question il y a 3 jours, il y a 2 mois, je n'ai pas su répondre, mais maintenant je sais répondre. Et il va le faire dès que la personne en question se reconnectera au chatbot. Donc c'est quelque chose de vivant qu'on fait évoluer, qu'on maintient, qui permet aussi de prendre le pouls des questions qui sont posées, des questions que les opérationnels, les comptables, les commerciaux se posent au regard d'un sujet fiscal.
L'idée, peut-être pour synthétiser un peu sur le chatbot, c'est que le chatbot est disponible 24 heures sur 24, contrairement à nous-mêmes qui, de temps en temps, dormons. Donc, c'est vraiment un outil qui est utile si vous avez une population importante qui vous pose des questions d'ordre fiscal et qui va permettre de vous libérer du temps libre. Pour le faire, en fait, c'est vraiment, si on veut avoir l'envers du décor, c'est vraiment un listing de questions type qu'on propose avec des reformulations différentes. Donc, pour une même question, on peut avoir trois ou quatre formulations différentes et donc par mots-clés et avoir la réponse correspondante. Donc, en fait, derrière, c'est un travail d'un fichier Excel avec une question, des formulations possibles pour répondre à cette question et quelle est la réponse. Et comme l'évoquait Jean, c'est quelque chose qu'on peut faire vivre, compléter, enrichir au fil de l'eau. Là, juste pour les petites technophiles, on est sur une plateforme qui est DreamYouUp et qui est assez utilisée, mais il y a aussi d'autres fournisseurs et le principe reste toujours le même. Voilà un peu le premier exemple qu'on voulait vous présenter sur le chatbot. C'est Hélène qui va poursuivre sur la partie comment former ses collaborateurs. Donc là, le chatbot est pour répondre, mais il y a d'autres manières pour former sur des thèmes un petit peu plus précis. Hélène ?
Oui, rebonjour. Donc aujourd'hui, nous assistons des grands groupes qui ont des salariés en mobilité internationale. Ces salariés, pour des raisons professionnelles, viennent ou quittent la France. Historiquement, nous organisions des rendez-vous téléphoniques pour revoir avec eux les conséquences et obligations fiscales liées à leur départ ou à leur arrivée en France. Depuis un an, nous avons mis en place le Digital Tax Briefing que nous souhaitons vous présenter ce matin. Comment ça fonctionne ? Le salarié reçoit un lien qui l'invite à aller à une interface où vous pouvez voir sous mon écran la page d'accueil. Il clique sur le Digital Tax Briefing. Alors, il a à sa disposition des vidéos en anglais ou en français. Comme vous pouvez le voir, il y a 12 vidéos disponibles. Je vais en lancer une pour vous montrer le format. Comme vous pouvez le voir, il y a une prestation orale appuyée par des slides. Ce sont des vidéos de 2 minutes sur chaque catégorie de revenus, salaire, revenu foncier, plus-value, etc. Alors, pourquoi ce visionnage ? On a voulu vous présenter ce use case car il est facilement adaptable à des très grands sujets. Par exemple, dans le cadre de la loi de finances, ou un changement réglementaire ou législatif, ou bien encore un changement de process. En effet, on peut mettre en place des courtes vidéos sur la base de questions-réponses ou de mini-tutos pour des populations dédiées. Cela permet d'avoir accès à l'information sous des formats rapides, didactiques et ludiques. J'espère que cette présentation vous aura plu et je laisse maintenant la parole à Mathilde.
Bonjour, je suis fiscaliste au sein du département TVA Douane et je vais vous présenter un robot que nous avons développé en interne afin d'automatiser une tâche que nous réalisions manuellement et qui était assez chronophage. Donc, Réconcile Facile est un robot qui permet d'obtenir des réconciliations rapides de données clés en matière de TVA. En effet, le robot permet de réconcilier en tout premier lieu le chiffre d'affaires qui est reporté dans les liasses fiscales avec celui reporté dans les CA3, donc les déclarations TVA des sociétés. Deuxièmement, il permet également de reporter les montants reportés, de réconcilier, pardon, les montants reportés dans les déclarations d'échange de biens à l'introduction et à l'expédition, avec ceux reportés dans les CA3, donc en ligne 03 pour les introductions de biens et en ligne 06 pour les livraisons intracommunautaires de biens. Et enfin, il permet de réconcilier les montants reportés dans les déclarations européennes de services avec les montants reportés dans la ligne 05. À noter que, comme vous le savez certainement, la première réconciliation entre le chiffre d'affaires, l'IAS fiscal, déclaration TVA, est une réconciliation clé lors des contrôles fiscaux. Et la deuxième réconciliation entre les DEB et les CA3 est une condition clé depuis le 1er janvier 2020 pour l'exonération des livraisons intracommunautaires. Donc, c'est vraiment des réconciliations que l'on fait au jour le jour lors de nos différentes missions. Ces différents rapprochements vont être générés dans un tableau Excel qui va en plus permettre d'obtenir certaines informations et données telles qu'une estimation du coefficient de déduction de la TVA ou encore l'estimation du coefficient d'assujettissement de la taxe sur les salaires. Et enfin, il permet d'obtenir en lecture directe des informations sur des données qui peuvent avoir un impact en TVA, notamment les produits financiers perçus par la société ou encore les subventions reçues. Alors, comment le robot fonctionne ? En fait, les déclarations fiscales d'une société vont être intégrées sous format PDF dans un répertoire particulier dans lequel le robot va aller chercher, lire la donnée. Vous voyez ici, par exemple, que le robot va lire une déclaration TVA, donc le formulaire 3310 CA3, et il a été paramétré afin de pouvoir lire différents formats de CA3, notamment lorsque uniquement les lignes remplies par les sociétés sont générées dans la déclaration. Comme vous voyez, c'est le cas ici. Donc là, il va chercher, par exemple, les exportations, les opérations soumises au taux de 20%. Vous voyez, il va vraiment lire la donnée et il va faire ce même travail de lecture pour les autres déclarations fiscales, que ce soit donc les liasses fiscales, les déclarations d'échange de biens ou les déclarations européennes de services. Suite à cette lecture, en fait, le robot va venir insérer les données qu'il a lues dans les différentes déclarations fiscales afin d'établir les réconciliations dans un fichier Excel. Donc, vous voyez ici, nous sommes sur la déclaration CA3 du mois d'avril et vous pouvez voir apparaître les différents montants que le robot a lus suite à sa lecture de la déclaration CA3 du mois d'avril. Et enfin, comme je vous le disais auparavant, toutes ces différentes déclarations fiscales vont être lues et être réconciliées dans un tableau Excel que je vais vous montrer tout de suite. Pardon. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui a 6 onglets. Donc, un onglet CA3, un onglet LIAS, un onglet DEB à l'introduction, un onglet DEB à l'expédition, et les DES et le mapping des données. Donc, en fait, le tableau va aller lire toutes les données qui ont été reportées par le robot. Vous voyez, par exemple, ici en 2017, j'ai mis CA3 qui ont été remplies, et également pour 2018, ainsi que mes liasses fiscales. Et dans un dernier onglet, on va pouvoir avoir en lecture directe les différences entre les différents montants. Par exemple, en premier lieu, la réconciliation CA3 alias, en deuxième lieu, CA3 DEB intro, quatrième, DEB XP, et ensuite, les DES. Donc, en fait, Réconcile Facile permet de réaliser des réconciliations rapides et clés en TVA qui, auparavant, étaient réalisées manuellement et donc qui nous prenaient un temps conséquent. Et cela nous permet aujourd'hui de nous concentrer uniquement sur la nature des écarts et de pouvoir ainsi les justifier, notamment lors des contrôles fiscaux. Et je passe maintenant la parole à Florent.
Merci Mathilde, bonjour à tous. Olivier et moi allons maintenant vous montrer à l'aide de deux petits exemples simples l'intérêt que peut avoir l'automatisation dans le domaine des prix de transfert. Vous le savez très probablement, toutes les entreprises doivent justifier du caractère de pleine concurrence, de prix de marché de leurs transactions intragroupes internationales. Et pour cela, elles doivent, dans la plupart des pays, préparer ce qu'on appelle une documentation prix de transfert. Donc, ça devient très classique, hein, master file, local file. Et dans certains autres pays également, comme la France par exemple, remplir et filer chaque année une déclaration de leur politique de prix de transfert. Alors, aussi bien dans le cadre du local file que de la déclaration annuelle, en fait, chaque société doit préparer ce qu'on appelle une matrice des transactions. Et Olivier, écoute, je te laisse la main pour nous montrer comment tu as l'habitude d'automatiser cette tâche qui est parfois très chronophage.
Oui, merci Florent. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, je fais partie de l'équipe prix de transfert de Florent. Donc, alors effectivement, en prix de transfert, on s'intéresse aux flux, et tout particulièrement aux flux intragroupes, donc il faut préciser la nature, les montants et les entités impliquées. Et donc, les matrices ou les formulaires qui présentent toutes ces transactions, déjà mentionnées par Florent, sont, pour l'instant, on le constate, toujours préparées de manière trop manuelle, via des classeurs Excel, des tableaux croisés dynamiques, qui sont bien évidemment fastidieux, chronophages et sources d'erreurs. Dans l'absolu, on peut les préparer pour une ou deux entités avec des profils simples. Dès qu'on commence à avoir des entités avec plusieurs activités impliquées dans de nombreux flux intragroupes, la question commence à se poser. Et là, c'est évidemment beaucoup plus consommateur de temps. Et ce qui est très important, c'est qu'en plus, ces matrices, elles doivent être reliées aux états financiers statutaires et il faut bien que leurs sources soient clairement établies. Donc, il y a un travail de lien, de bridge à faire et d'être en mesure de faire le lien entre un livrable qu'on produit auprès d'une administration fiscale et la source dont la donnée est tirée. Alors, c'est pour ça que l'équipe prix de transfert de PwC a développé et mis en œuvre pour plusieurs de ses clients une approche et une méthode de travail collaborative grâce à Alteryx qui permet d'automatiser ces matrices des flux afin de gagner en rapidité, en précision et en cohérence. Alors, prenons un exemple, l'exemple d'une entité française qu'on appellera FRA1 et qui est tête de son groupe. Le premier travail, en fait, dans le cadre de l'automatisation de ces matrices, c'est de trouver une donnée brute. Données brutes, la plupart du temps tirées d'un classeur, d'un ERP comptable. Comme je vous montre à l'instant à l'écran, là j'ai un classeur Excel de près de 8000 lignes et qui est un simple extrait du grand journal en fait comptable avec toutes les entrées comptables relatives à des flux intragroupes, transactions vraiment très très diverses. Et bien, une fois qu'on a déterminé cette source et qu'on s'est dit bon bah très bien, je vais travailler depuis un export d'un ERP ou même de plusieurs, hein, c'est très flexible, on est, et c'est souvent ça l'intérêt, c'est qu'on n'est pas limité à une seule source, et bien on va travailler à la préparation d'une table de correspondance, c'est en tout cas comme ça qu'on l'appelle pour l'instant, et qui vise à donner sur la base de critères déterminés, donc par exemple les numéros de compte français, PCG, des numéros de compte IFRS, tels qu'ils apparaissent dans l'ERP, des business units ou autres, la bonne qualification à chaque entrée comptable, le bon type de transaction à chaque ligne. Donc là, par exemple, pour la paire de comptes IFRS, PCG présente, c'est la vente de biens. Pour une autre paire de comptes, eh bien, ce sera la réception de services techniques, la réception de services centraux. Donc ça, c'est le deuxième travail. Et le troisième travail consiste donc via Alteryx, ce que je vous montre à l'instant, eh bien, à nettoyer, ordonner, classer cette donnée. Donc, bon, pour les connaisseurs à droite, on a les fameuses entrées de données, et vous voyez différentes fonctions qui vont consister voilà, à ordonner la donnée brute, hein, pour rappel, c'est celle du classeur Excel initial que je vous avais montré, avec toutes les entrées comptables, les 8000 lignes, de manière à ce qu'à la fin, eh bien, on ait un classeur Excel final, comme par exemple celui-ci, qui est un simple export en fait, tiré de l'exécution de mon workflow ici. Hein. J'exécute ce workflow ici en sortie, j'obtiens un classeur Excel, hein, alors qu'en entrée, j'avais mon classeur Excel avec les 8000 lignes, et vous voyez ici que j'ai toute une série d'onglets qui classent mes transactions par nature, avec des contreparties donc, étrangères, là, pour l'instant, qui éliminent toutes les contreparties aussi françaises, parce que dans le cadre d'une documentation française, bah, les flux domestiques ne seront pas documentés, donc ici, ils sont mis dans des onglets à part. Qui isole également les flux qui ne seraient pas pertinents ou qui ne font pas l'objet d'une documentation développée en matière de prix de transfert, on pense naturellement aux distributions de dividendes, et qui agrège donc voilà, par catégorie de transaction, par contrepartie, les différents flux, sachant qu'on applique également les seuils de matérialité applicables. Donc là, il a juste été appliqué à un millier d'euros, mais en France, on pourrait évidemment penser aux 100 000 euros de seuil de matérialité. Et cette donnée, ensuite, elle pourra faire l'objet, alors évidemment, elle deviendra une annexe d'un local file, où ça pourra très bien être un formulaire. En France, c'est un formulaire SAFA 2257. On a pris des exemples français, mais c'est applicable à plein d'autres pays. Et pourra faire aussi l'objet d'une visualisation ultérieure pour bien comprendre, identifier les incohérences, les flux insoupçonnés aussi, ça permet quand même d'avoir une meilleure visibilité sur son groupe. Et donc Florent, je crois que tu voulais continuer avec une autre application de ce type de transaction aussi, de matrice.
Oui, exactement, merci Olivier. Alors, bon, vous le voyez avec ça, la préparation de vos SERFA 2257 ou de vos annexes au local file peut presque devenir un plaisir. Ceci dit, ce n'est pas suffisant, c'est uniquement une petite partie du travail. Si on veut aller juste un tout petit peu plus loin, quand on prépare un local file, donc effectivement, il faut montrer une matrice de flux claire, fiable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, normalement, montrer un organigramme juridique du groupe. Et de manière pragmatique, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'inclure en fait les entités avec lesquelles l'entité française que je documente opère des transactions intra-groupe transfrontalières. Je vous propose en fait de repartir de l'onglet de la matrice de flux qu'Olivier a préparé, réception de services techniques, et on va voir comment on peut préparer de manière automatisée l'organigramme juridique qui intègre toutes ces sociétés. Vous pouvez le voir, on a 38 sociétés, donc je pars de cette donnée-là, mais pour construire l'organigramme juridique précis, avec les bonnes chaînes de détention, les bons pourcentages de détention, je dois en principe demander au groupe le fichier qui répertorie tous les rapports de détention entre les entités du groupe. Voilà, c'est ce qui est maintenant affiché à l'écran. Ce fichier que vous voyez, hein, il peut comporter 1000 lignes, 2000 lignes, parfois pour certains de nos clients, on a vu des fichiers de 15 000 lignes. Et donc, en fait, si je veux préparer cet organigramme, je dois aller extraire toutes les relations juridiques concernant les entités de ma matrice de flux, les hiérarchiser toutes les entités par détention, filiale, sous-filiale, etc., sœur, cousine. Et une fois que j'ai fait tout ce travail relativement fastidieux, je dois encore aller préparer un PowerPoint, tâche supplémentaire. Donc, pour réaliser en fait ces tâches très consommatrices de temps, on a développé une solution qui est basée sur du codage et qui nous permet d'automatiser ces différentes tâches que je vous ai décrites. Concrètement, en fait, comment ça se passe? L'entreprise nous fournit le fichier de détention, qui est un fichier brut qui peut sortir de l'ERP. On utilise la matrice de flux qu'on a préparée soit de manière automatisée, soit autrement. En output, en fichier de sortie, en délivrable, on obtient de manière complètement automatique un organigramme juridique, soit en PowerPoint, soit en JPEG, tel que vous le voyez à l'écran. Donc c'est un tout petit exemple, toutes ces tâches-là sont quand même extrêmement consommatrices de temps. Quand on prépare un local file, c'est quand même mieux de se concentrer sur les analyses économiques, les analyses financières, les justifications des méthodes, les analyses fonctionnelles, que sur ces tâches très répétitives, d'où l'intérêt, encore une fois, de l'automatisation. Voilà pour les prix de transfert. Je laisse maintenant la parole à Julie qui va vous parler d'ATAD 1.
Merci Florent. Bonjour à tous. Donc, pour tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler sur les nouvelles règles de déductibilité des charges financières, vous savez qu'il s'agit d'un dispositif aux règles complexes et qui nécessite de travailler avec des nombreuses données de sources. Donc, quand le dispositif est arrivé, nous, on a commencé par travailler à la main dans des fichiers Excel et on a longuement analysé le dispositif et on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de tâches sur lesquelles on passait du temps. Il y avait beaucoup de sujets techniques qui nécessitaient de passer du temps et aussi beaucoup de tâches qu'on faisait, notamment concaténer les balances générales pour faire des revues du compte de résultat pour s'assurer qu'on ne loupait pas des charges financières qui étaient fastidieux, qui pouvaient entraîner des erreurs. Donc, afin de faciliter et surtout fiabiliser nos travaux sur ce sujet, nous avons développé un outil qui nous permet de gagner du temps et de la fiabilité. Donc, c'est l'outil que vous voyez à l'écran. La première donnée source, ce sont les balances générales. Donc, moi, je vais commencer par charger les balances générales. Donc, dans un zip, j'ai un fichier avec un fichier Excel par entité. Et en fait, ça va me permettre à l'outil de créer une liste de chacune des entités. Je vais l'envoyer et ça va générer des questionnaires pour les charges financières nettes. Je vais avoir un gros fichier avec chaque entité, donc comme ça je suis sûre d'oublier aucune entité de mon intégration fiscale et pour chercher les données consolidées qui servent au ratio, les données fiscales qui vont servir à calculer l'EBITDA fiscal et surtout sur la base d'une préanalyse que nous on a réalisé en amont et qui a été du coup pré-remplie dans l'outil, on a un questionnaire qui nous permet de croiser pour chaque société, les comptes dans lesquels il pourrait y avoir des charges financières, parce que les charges financières, leur définition, elle est très large dans le dispositif et elles peuvent être cachées, notamment dans les redevances de crédit bail, elles peuvent être également cachées dans des charges d'amortissement, parce qu'il faut aller chercher la cote-part qui correspond à du financier. Enfin, donc, il y a plein de comptes comme ça auxquels on ne pense pas forcément de premier abord. On va aller forcément prendre automatiquement toutes les charges 66 et les produits 76, mais il y a d'autres endroits, comme vous pouvez le voir avec ce questionnaire où j'ai quand même beaucoup de lignes. Et donc, le questionnaire qui sort, c'est pour chaque entité, si j'ai un montant dans le compte qui a été identifié comme étant à risque de cacher des charges financières nettes, la ligne se crée dans le fichier Excel, on m'indique le montant qui est en BG et quelles questions je dois me poser pour ce compte-là, ce qui me permet dans la colonne d'à côté de remplir pour dire, est-ce que j'ai un montant? Oui, par exemple ici 50 000. Et ensuite, je peux recharger ce fichier-là dans l'outil, ici. Je vais chercher mon questionnaire rempli, je l'envoie. Et à partir de ça, donc là, j'ai préparé pour la présentation également la même chose pour le questionnaire données fiscales et données consolidées. Mais une fois que j'ai tout chargé, j'ai une analyse qui va se faire automatiquement dans l'outil. Et là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que du coup, là, ce que j'ai fait sur les charges financières, moi, ça me gagne un temps fou, notamment cette analyse, je la faisais en redescendant toutes les BG. Donc, quand j'ai des groupes de 60 à 100 entités, c'est vraiment, ça prend énormément de temps. Et là, l'analyse, elle est vraiment très faite. Et ici, une fois que j'ai tout ça qui est rentré dans l'outil, je peux choisir si je veux faire l'analyse au niveau du groupe d'intégration fiscale ou le calcul individuel qui est demandé également par l'administration fiscale, notamment pour le calcul de la participation et pour la répartition de la charge d'impôt. Et donc, quand j'appuie, je dis que je veux faire l'analyse sur le groupe d'intégration fiscale, je lance l'analyse et dans un temps, comme vous pouvez le voir, très réduit, je sais immédiatement quel est mon montant de charge financière nette déductible, le montant non déductible qui sera reportable intégralement, le montant non déductible qui sera reportable qu'à hauteur d'un tiers. J'ai une vision sur tous mes ratios. Et si je veux plus de détails sur tout le calcul, je vais avoir un fichier Excel complet dans lequel je vais avoir tout le détail du calcul. Est-ce que donc ça, c'est le calcul de l'EBITDA fiscal. Donc, on va avoir l'EBITDA fiscal pour le groupe et pour chacune des entités avec tout le détail du calcul et en bas, mon EBITDA fiscal. Et je vais avoir une vision synthétique de est-ce que mon groupe est sous-capitalisé, est-ce que j'ai pu appliquer la clause de sauvegarde me permettant d'infirmer cette supposition de sous-capitalisation. Donc, dans le cas présent, c'est non. Et du coup, ma déduction de base, est-ce que j'ai le droit à une déduction complémentaire étant sous-capitalisé? La réponse est non. Tous les éléments de synthèse, mes charges financières, mon résultat fiscal et un détail encore plus détaillé du calcul ici. Voilà. Donc, nous, ça nous permet vraiment de gagner un temps précieux en termes d'exploitation des données, en termes de fiabilisation de nos travaux. Et surtout, ça nous permet de concentrer tout notre temps sur des travaux à valeur ajoutée exclusivement. Et dans le cas d'ATAD, il y a vraiment des sujets spécifiques, notamment la consolidation, qui est un sujet qui est souvent peu maîtrisé et qui peut poser beaucoup de questions, surtout qu'il y a encore beaucoup de zones de gris laissées par l'administration fiscale. Donc, on peut vraiment se concentrer sur ces sujets-là. Voilà, et du coup, je passe la parole à Jean sur la revue fiscale.
Alors, merci. Merci beaucoup, Julie. Je vais peut-être aller un peu plus vite que prévu sur la revue fiscale, parce qu'on est dans la continuité de ce que Julie vient de vous présenter pour ATAD 1. Dans la revue fiscale, on a eu la même démarche et on a cherché à automatiser la revue fiscale. Vous voyez à l'écran notre outil, vous voyez qu'il y a le même look and feel pour l'ensemble des outils que nous développons en interne. À l'intérieur de cet outil de revue fiscale, on a un élément clé qui est le testing de la balance générale dans le cadre de la détermination du résultat fiscal à la clôture, dans le cadre de la validation des options de clôture, pour la détermination du résultat fiscal et de l'alias. C'est souvent des opérations que l'on a, pour lesquelles on a très peu de temps pour les mettre en œuvre, et avec des fois une masse très très importante d'entités à revoir. Dans ces cas-là, on a voulu pouvoir gagner du temps et de l'efficacité en développant un outil de testing. Vous voyez, on crée des dossiers, on a des entités, on indique l'ensemble des éléments liés à l'entité. On charge la balance générale de l'entité, mais également on peut charger le projet de résultat fiscal. Et on se retrouve à avoir relativement rapidement des testings qui sont mis en œuvre sur toute la balance générale de manière automatique. Et ça nous donne un élément où on a test par test, thématique par thématique, sujet par sujet, on a les résultats du test, et donc ça fait gagner un temps considérable pour les travaux de revue à un moment crucial où on a très peu de temps pour valider ces éléments-là. Donc voilà, donc c'est un exemple très proche de celui de Julie sur ATAD où on est dans une logique de testing systématique avec une formalisation sur un support donné. Là, on est sur un support Excel très simple, mais qui peut permettre d'aller directement identifier les points saillants, les erreurs qui ont pu être commises et pouvoir corriger extrêmement vite un élément de production dans une zone, dans une période de temps extrêmement courte. Cyril, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Jean. Effectivement, on voulait en pré-conclusion aborder un sujet qui est aujourd'hui important. Tous ces cas d'usage que l'on vient d'évoquer reposent sur l'automatisation de l'exploitation de la donnée. L'ensemble des collaborateurs passent énormément de temps à travailler sur cette information, à l'extraire, la remettre en forme et la faire parler finalement pour arriver à des analyses pertinentes. Souvent, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une recréation de l'information qui est souvent inutile. Et on souhaitait finalement afficher ici un élément qui nous semble important, c'est que la donnée utilisée par l'ensemble des fiscalistes, généralement, elle existe au sein de l'organisation. Et elle existe elle est accessible de plusieurs manières. Alors, elle est souvent directement accessible au travers des systèmes financiers. Il faut savoir qu'il y a des systèmes dits de BI, Business Intelligence, ou d'EPM, Enterprise Performance Management, ou encore de consolidation, qui viennent préparer cette information directement depuis les ERP et les met à disposition généralement des financiers, mais c'est facilement accessible par d'autres populations, que ce soit à la fois évidemment les fiscalistes, mais également les opérationnels. Souvent, cette donnée qui sort de ces systèmes BI, EPM et conso, donc ces systèmes financiers, elle est à compléter. Et on est en capacité de la compléter de manière assez facile avec des mécaniques de robots, ce qu'on appelle le RPA, ou encore d'autres petits outils qui permettent finalement de compléter l'information qui vient des systèmes financiers en robotisant l'extraction de cette information depuis les différents écrans directement de l'ERP ou d'autres systèmes transactionnels. Un troisième niveau de possibilité à récupérer l'information passe à travers de ce que l'on appelle le requêtage. Des outils comme Excel, comme Alteryx ou d'autres outils beaucoup plus avancés permettent de se connecter directement à la source de l'information, que ce soit des ERP transactionnels ou même encore des systèmes experts. Et ça permet finalement d'interroger quasiment en temps réel, les systèmes opérationnels et de remonter l'information la plus fraîche possible à n'importe quel moment. Et enfin, la quatrième manière de récupérer de l'information, lorsqu'on a épuisé ces trois premiers éléments, c'est de faire simplement une demande à la DSI, puisque la DSI a une vue exhaustive de l'ensemble des données disponibles au sein de l'organisation. Et elle sera sans aucun doute ravie de se mettre à votre service pour vous fournir tous ces éléments-là. Donc voilà, gardez à l'esprit, la donnée, l'ensemble des informations existent au sein de l'organisation. Donc Jean, je te laisse aujourd'hui conclure.
Oui, merci Cyril. Alors, peut-être que avant de conclure, on peut prendre quelques-unes de vos questions. Sur le chatbot, vous nous posez la question de savoir si on peut le faire en français ou en anglais. Bah oui, on peut le faire dans toutes les langues et on peut faire différents segments. Sur l'investissement en temps pour maintenir les questionnaires, il y a un investissement de départ qui peut prendre quelques dizaines de jours hommes. Après, l'entretien des questionnaires, vérifier les questions qui sont posées, enrichir, rectifier, c'est un travail de long cours qui n'est pas très 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 consommateur de temps, et c'est un très très bon outil aussi pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, prendre le pouls de ce qui des questions qui sont posées par la communauté que l'on entretient, qu'elle soit une communauté de comptables, de commerciaux, ou du business. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et donc l'effet de levier entre le temps investi, le temps gagné est forcément gagnant. On avait d'autres questions sur le chatbot. Alors oui, on peut aller poser les questions dans Google, mais le chatbot a l'avantage de sécuriser la matrice des réponses. Google, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des bonnes réponses, mais il y a aussi de très très mauvaises réponses. Avoir un chatbot qui permet de là aussi sécuriser l'information qui circule au sein de l'entreprise. Mathilde, il y a une question pour toi. Je ne sais pas si tu la vois sur la C3S.
Oui, tout à fait. On a pensé également réaliser la réconciliation avec les déclarations C3S et ce sera dans un deuxième temps afin de paramétrer le robot parce que le format n'était pas le même pour ces déclarations-là. Alors, pour la TVA sur encaissement et des taux sont…
Différents taux sont utilisés.
Différents taux sont utilisés. Alors, pour ce qui est règle d'exigibilité, on ne va pas avoir de réconciliation. Le robot va nous permettre de voir justement les différences qui sont liées à ces règles d'exigibilité par rapport à celles qui peuvent être applicables en matière de liasse fiscale. Et pour les différents taux utilisés, oui, on a bien paramétré le robot pour que les différents taux soient bien lus par le robot et insérés dans le tableau Excel. Et pour le nom du logiciel, alors c'est un petit robot qui s'appelle Réconcile Facile.
Voilà. Et pour l'autre, alors vous posez aussi la question sur Alteryx. Donc c'est Alteryx, c'est un outil de data analytics dont PwC s'est doté en France et au sein du réseau, pour lequel nous avons formé l'ensemble de nos équipes. Quelle que soit la ligne de service, les auditeurs, les consultants, mais aussi les fiscalistes. C'est un outil relativement simple d'accès et qui est extrêmement puissant. Il n'est pas limité en termes de capacité. Il a une très grande performance. Alors, ce n'est pas un super Excel, c'est un peu plus complexe, mais ça ouvre à la notion d'analyse de données. Cyril, peut-être tu veux peut-être compléter sur Alteryx et la logique d'Alteryx, les raisons pour lesquelles nous on utilise ça de manière intense et en particulier au sein du cabinet d'avocats pour les fiscalistes, mais aussi pour les juristes. Et nos juristes se mettent aussi à l'analyse de données.
Effectivement, Jean, cet outil a beaucoup d'intérêts et beaucoup d'avantages. Il permet notamment de bâtir un processus à la fois d'extraction de l'information, de la manipulation et de la mise en qualité qui permet finalement d'avoir ce processus d'une part visuel et d'autre part extrêmement robuste. Et ça permet de le réexécuter par des non-initiés, ça c'est très important aussi. Des non-sachants techniques. Ça permet vraiment de passer à l'échelle tout un processus de manipulation de données qui va, dans certains cas, atterrir sur un fichier Excel pour des exploitations plus poussées et plus avancées encore. C'est vraiment un outil qui permet de réduire drastiquement le temps passé sur des tâches, je dirais, faible valeur ajoutée.
Ok, merci Cyril. Alors, je vois qu'on a dépassé le temps, mais je vais prendre quand même 2 minutes pour conclure. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons multiplié les démonstrations de use case car nous sommes convaincus que la robotisation est parfaitement illustrée par des sujets qui peuvent être très ponctuels et potentiellement très nombreux, mais qui correspondent toujours à des points de pénibilité, qui soustraient de l'essentiel. Pour la fonction fiscale, votre temps est précieux, les ressources sont rares et chères, elles doivent être dévolues autant que faire se peut à des tâches d'analyse, de prise de recul, de production de valeur ajoutée. Tout ce qui peut faire gagner du temps, éloigner les tâches répétitives, doit être mis en œuvre. Alors, ça demande un peu d'investissement en temps, en ressources, en adaptation de mindset au fil de l'eau, mais la rentabilité ne fait pas de doute dès lors que vous pouvez vous libérer des heures précieuses. La logique qui sous-tend la robotisation est de pouvoir la mettre en œuvre rapidement. En principe, on doit compter en semaines et non en mois. Les résultats sont clés, dès lors très rapides, tout autant que les corrections trajectoires et les adaptations très souvent nécessaires. Et les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre vont dépendre de l'organisation interne de votre entreprise ou de votre groupe, du niveau de maturité des équipes, on l'a vu sur l'utilisation de tel ou tel outil, de la faculté à maîtriser des outils de robotisation qui doivent vous permettre d'autonomiser les fiscalistes sur ces sujets. Il faut garder en tête que la robotisation doit également permettre l'épanouissement et la fidélisation de vos équipes qui seront délestées de tâches sans intérêt, qui est un élément aussi clé. Alors, la première saison des épisodes de la transformation digitale de la fonction fiscale s'achève aujourd'hui. On a été très heureux que vous ayez été si nombreux à vous connecter à nos webinaires cette année. Céline, Cyril se joignent à moi et toutes nos équipes PwC qui se sont succédées pour présenter leurs idées, leurs réalisations. On vous remercie chaleureusement pour l'intérêt que vous nous avez manifesté. Alors, nous donnons rendez-vous à la rentrée pour la saison 2, dans un format qui reste à définir. N'oubliez pas de nous donner vos feedbacks. Nous sommes très attentifs à répondre à vos attentes en termes tout à la fois de contenu et de format. Alors, d'ici là, nous resterons en contact avec vous durant l'été et on contacterons ceux d'entre vous qui le souhaitent pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos processus de transformation digitale de la fonction fiscale. Et nous vous souhaitons collectivement un très bel été, de passer d'excellentes vacances qui, j'en suis sûr, cette année seront réparatrices après l'année si particulière que nous venons de passer. À très bientôt et à la rentrée.
Et n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire qui vous est présenté à l'écran.